Les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédons petits bourgeois de la bonne santé suffit.
Eh, tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les... Non.
Mais que diable, les différences de galère!
Vous avez raison, mais hâtez-vous!
Il y avait des bois à l'autre promenade.
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera contée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de mars de Scène de vie, vie de scène, l'émission qui prendra encore son temps de parler de spectacle vivant. Cette émission vous est proposée en coproduction entre Le Tangramme et Principe Actif. Bonjour Caro, bonjour Nathalie.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Alors au sommaire de cette émission, j'ai plus le sommaire de cette émission sous les yeux, mais vous allez m'aider, c'est pas grave, ouais. on va y arriver tout de même et ça ne m'inquiète absolument pas.
On parlera photographie.
Alors non, on parlera d'abord de la compagnie, ben voilà.
Ah, vous le faites dans l'ordre.
Rémusat, ben, c'est ça, un sommaire, on le fait dans l'ordre.
Ah bah des fois, oui, voilà. Ou pas.
On va commencer par la fin si vous voulez.
Ouais, on va commencer par le début. Caro.
D'accord. On commencera par parler de Paysage, une création de la compagnie Rémusa, avec en metteuse en scène Aurélie Edline, qui sera à nos micros.
Nous parlerons également photographie, Nathalie.
Eh oui, avec Vincent Connétable qui est à nos micros. Bonjour Vincent, merci
Bonjour
d'être avec
tous.
Nous ce midi pour l'exposition actuellement à la baraque à Évreux.
Et puis nous poursuivrons encore avec de l'exposition.
Également, à nos micros, nous aurons par téléphone La Boucle, graffeur, artiste, plasticien, qui présente une exposition au comptoir des loisirs d'Évreux.
Nous ferons également un tour non exhaustif d'un agenda du mois de mars, en tout cas ce qui aura retenu notre attention. Nous terminerons avec le traditionnel extrait de film que Nathalie nous a choisi et qui nous laissera le suspense jusqu'à la fin. C'est comme ça que ça fonctionne.
Eh ben oui, on va pas changer.
Exactement. Mais tout de suite, sans plus attendre, retrouvons une autre de nos traditions, le son d'ambiance.
C'est mieux. Narration, dialogue. Dialogue.
Non, c'est narration.
Narration, toi? Narration, narration aussi?
Oui. Narration aussi. Narration,
on fait tous les dialogues. Tous les dialogues, on fait dans le texte.
Ok, mais personne ne te répond jamais?
Non. Bah, si.
Ah, voilà.
Voilà,
en
donc
fait,
je demande.
Il fait tous les dialogues comme il avait été volontaire dès le départ. Il y a les paysans, etc. Il fait tous ses passages.
Parce que vu que j'ai une croix, pourquoi pas prendre un quelconque.
Bah oui, je sais, j'ai réglé le micro à cause de toi. J'ai bien vu, hein. Il était trop sensible, ce micro. Ok, on est bien? Manon, c'est toi? Sourire, on articule bien. La voix, vous vous rappelez d'où elle sort? On pose sa voix, on porte sa voix. Ok? Tout va bien? C'est génial, là.
Il n'avait pas de refuge, pas de toit, pas de hutte, pas d'abri. Il dormait partout en été, et l'hiver, il se glissait sous les granges ou dans les étables avec une adresse remarquable.
Alors, JC, où as-tu laissé traîner tes micros cette semaine ou ce mois-ci?
Eh bien, en fait, c'est hier ou avant-hier, je ne sais plus, nous sommes vendredi. C'était hier au collège Guillaume de Conches à Conches-en-Ouche, où nous travaillons dans le cadre du festival du livre qui se déroulera le week-end prochain. Ça doit être le 14, 15, 16, quelque chose comme ça.
15-16.
Alors, ça commence le vendredi, 14-15-16. Voilà, ce sont les mots douches festival du livre. Et puis, comme souvent dans les festivals, eh bien, il y a de la médiation culturelle qui se fait en amont, des ateliers. Alors, il y a des ateliers qui se font avec des scolaires, des des gamins en CM1, CM2. Et là, je travaillais sur un groupe de collégiens qui met en voix, qui met en théâtre radiophonique des œuvres qu'ils ont choisies. Alors là, ce qu'on écoutait, c'était une mise en voix du Gueux de Guy de Maupassant. Les élèves ont travaillé sur le placement de la voix, sur la ponctuation, sur donner vie à un texte. Et puis, on travaille également sur la partie habillage du texte. Comment est-ce qu'on met des ambiances musicales ou des bruits d'ambiance pour soutenir le texte sans non plus mettre trop de bruitage et que ça devienne un texte avri, par exemple. Donc voilà, c'est trouver la subtilité et travailler aussi sur la voix et le texte. Voilà, c'est plutôt intéressant, plutôt sympa.
Double objectif, en fait, dans un atelier média radio, en fait. On travaille à la fois pour un peu comme le théâtre, hein, les lectures à haute voix, et puis un son, parce que je pense que ce podcast ou ce son, on va le retrouver...
Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, Nathalie, nous le retrouverons la semaine prochaine de mardi à vendredi à 9h30. C'est après le Flash Info d'RFI Monde. Vous retrouverez chaque jour une lecture offerte par les collégiens. Il y aura 4 lectures, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et puis, vous aurez l'occasion de les retrouver, bien entendu, dans les podcasts et peut-être même en rediffusion. Voilà où est-ce que vous pourrez retrouver ces lectures. On part sur la toute première pause musicale et c'est encore toi, Nathalie, qui est l'explication.
Oui, je savais plus dans quel sens. En fait, je suis un petit peu perturbée dans le sens du sommaire aujourd'hui, mais ça va le faire.
T'as décidé de tirer au sort les éléments de notre émission.
Ouais. Alors, je vous propose d'écouter Sharon Van Etten and the Attachment Theory de son dernier album. C'est le titre est Idiot Box.
Et j'allais me lancer à la désannonce, mais je vais te laisser faire, Nathalie. Alors, si tu le veux bien.
Oui, je le veux bien, j'y sais. Donc, on écoutait Sharon von Etten and the Attachment Theory avec le titre Idiot Box.
Oui, et donc là, nous accueillons Aurélie Edeline de la compagnie Rémusa pour parler de son spectacle que nous allons accueillir la semaine prochaine, qui s'appelle Paysage. Bonjour,
oui,
Aurélie.
Bonjour.
Alors, nous sommes ravis de vous avoir au micro pour et de vous retrouver, puisque vous êtes une artiste que nous accueillons régulièrement au Tangram. Hein.
Tout à fait, oui.
Là, on accueille votre dernière création, donc qui se nomme Paysage, avec un acteur qu'on a déjà vu il n'y a pas très longtemps, Martin Gros, qui interprète un des deux rôles des personnages de votre histoire. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter la genèse du projet et comment ça s'est construit?
Oui, complètement. Alors, c'est Martin Le Gros. Qui est déjà venu jouer plusieurs fois au Tangram. Alors Paysage, c'est une commande d'écriture, donc c'est ma deuxième mise en scène, et c'est une commande d'écriture passée à l'autrice Nadège Catelino. Donc la compagnie Rémusa passe des commandes d'écriture à des autrices, et on avait envie de s'interroger sur ce que pouvait être une rencontre aujourd'hui entre un homme et une femme aujourd'hui en 2025. Et entre un homme et une femme qui ont 40 ans passés, qui ont déjà un petit passif. Alors ça parle d'amour, voilà, ça parle de rencontre amoureuse. Enfin, qu'est-ce que c'est que le rapport à l'autre? Qu'est-ce que c'est que l'altérité pour des gens qui ont 40 ans passés et qui sont pris comme ça dans le flot du passage de MeToo. Voilà, donc c'est un spectacle où on savait au tout départ, avant même l'écriture, que ce serait pour Martin Le Gros et Gwenaëlle Mendonça. Et l'envie, c'était qu'il y ait aussi un musicien au plateau. Donc dans son écriture, Nadège, elle a dès le début écrit des passages qui seraient mis en musique, qu'on a choisi de mettre en musique avec Louis Sadi, qui est le musicien qui est au plateau et qui met en musique les paysages intérieurs des deux personnages. Voilà.
Ces personnages, vous l'évoquiez, cette notion de rencontre passée, ouais. 40 ans avec tout le contexte MeToo notamment, mais ce que ça a généré aussi dans les relations hommes-femmes notamment. Comment finalement on fait ressortir sur une durée d'une présence sur scène autant d'éléments, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il y a un fourmillement de tout ce que ça fait émerger en fait.
Tout à fait. C'est pas un spectacle didactique où on ferait comme ça un espèce d'exposé de mise au point ou d'état des lieux, mais en tout cas c'est un état des lieux par le prisme de cet homme et de cette femme. Nous, on a aussi travaillé à partir d'entretiens avec les acteurs, parce qu'on aime bien aussi intégrer dans le processus de création les acteurs, ce qu'ils pensent, ce qu'ils se racontent, ce qui les questionne. Et à partir de là, on a dégagé quatre grands paysages. En fait, c'est deux personnes qui décident, qui se retrouvent un peu par hasard, comme une rencontre, quoi. Ils se rencontrent par hasard. Ils sont là pour faire une randonnée sur le plateau. Donc là, c'est avec toutes les questions que ça pose en mise en scène de se dire comment on fait une randonnée au plateau. Et ils décident de partir en randonnée. Et à travers le processus de la marche, qui est quand même le lieu aussi où de la pensée, de la pensée solitaire, de la discussion. Moi, j'aime bien l'idée de la conversation. C'est des gens qui vont traverser comme ça quatre paysages un peu métaphoriques où ils vont se poser la question de se dire, par exemple, mon rapport à l'amour et l'argent. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Comment ça se traduit l'argent? Comment on en parle dans un couple? Comment on deal avec nos histoires passées? Comment on deal avec le romantisme? Et comment on deal avec des paysages, un paysage nouveau qu'on essaie aujourd'hui de créer. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte.
C'est très clair, sachant qu'en plus, ce symbole de la randonnée, c'est finalement aller ensemble dans le même sens. Enfin, c'est ça, la randonnée, c'est vraiment...
Mais pas toujours à la même vitesse. Mais donc, ça va dans le même sens. Ça met aussi le corps à l'épreuve aussi, la randonnée. C'est évidemment, ça pose aussi les questions d'intimité. Qu'est-ce que c'est quand on a envie d'aller aux toilettes, qu'on est en train de marcher avec quelqu'un et qu'on est en pleine nature? Qu'est-ce que c'est d'avoir envie de se, se baigner dans une rivière parce que ça fait peut-être 3 jours qu'on n'a pas eu l'occasion de se laver vraiment, mais en même temps qu'on est avec quelqu'un. Enfin voilà, ça pose vraiment les questions du rapport à l'autre, mais voilà, dans ces paysages différents qui les convoquent à des thématiques et à leur histoire, à leur propre histoire personnelle, quoi.
C'est-à-dire que pendant la représentation, les comédiens effectuent une performance physique?
C'est une bonne question. Ben, moi, j'aime bien quand les acteurs, ils s'engagent physiquement dans une représentation. Donc là, on est plus allé dans des choses symboliques. C'est-à-dire, on a essayé de se demander comment le temps de la représentation pouvait mettre les acteurs dans une espèce d'épreuve physique, comme l'amour l'est parfois, quand on peut passer dans une même journée d'un état hyper joyeux, hyper euphorique à une dépression totale, parce que l'autre nous a pas rappelé ou parce qu'il s'est passé quelque chose. Ou... En tout cas, oui, effectivement, il y a une mise à l'épreuve. Ça, c'est sûr. Il y a une mise à l'épreuve. Ouais. Parce qu'ils chantent aussi. Donc ça, c'était nouveau pour eux. Donc je sais pas si vous viendrez voir le spectacle, mais la musique de Louis, elle est extrêmement musclée, elle est tonique. Et du coup, ça leur demande un engagement qui est quand même pas des moindres, quoi.
Et donc ma question suivante, c'était comment justement ça s'est construit au moment de la créa? Est-ce que la musique était déjà posée et les acteurs?
Bah pardon, je vous ai coupé, excusez-moi.
Pourquoi? Non, comment? Allons-y.
Non, il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas de musique. Je savais que Louis avait travaillé beaucoup avec des machines. Donc on savait à peu près quel style de musique ce serait. Mais on avait les paroles et après ça s'est vraiment construit avec les acteurs et avec ce qu'ils sont et évidemment avec ce que raconte le texte. Mais non, on a tout fait en même temps. On a travaillé la musique le matin. Ça s'est construit vraiment comme ça. L'après-midi, on répétait. Ils manipulent aussi beaucoup de choses parce que c'est eux qui ouvrent, c'est eux qui mettent en place la scénographie au fur et à mesure, comme si ce chemin n'existait pas et qu'il fallait le mettre en place et l'inventer. Et la musique s'est construite aussi, en même temps que les répètes.
Moi, j'avais une question, peut-être que j'ai pas bien entendu, mais le paysage et la randonnée, dans quel contexte, dans quel milieu de randonnée le font? C'est en campagne, c'est en montagne, oui. C'est parce que le contexte aussi est hyper important, du tout coup, dans l'environnement.
Ils commencent, en fait, c'est des gens qui au tout départ rêvent, comme beaucoup, d'aller en nature, d'aller en pleine nature pour se ressourcer, pour se reconnecter à une forme de nature, et qui se retrouvent d'abord dans une zone industrielle. Donc ils ont du mal à s'écarter quand même de la ville. Ensuite, ils vont traverser un paysage de forêt. Ensuite, ils vont traverser un paysage de carrière. Et ensuite, ils vont arriver au bord de la mer.
Un horizon.
Voilà, un horizon possible. Voilà, où là, tout est à faire, en fait.
Symboliquement, est-ce qu'ils vont se perdre? Parce que moi, c'est une question quand même, quand on aborde ces questions des relations hommes-femmes, quand on rajoute du contexte très contemporain, là-dedans, il y a aussi toutes les questions d'actualité qui nous ont traversées. Est-ce qu'au bout d'un moment, il est obligatoire de se perdre et finalement, est-ce que c'est pas l'intérêt aussi d'aller se perdre?
Bah si, ils se perdent. Bien sûr, ils se perdent. Ils se perdent en pleine nuit, ils se perdent parce que ils ont besoin l'un de l'autre aussi. Donc quand il y en a une, c'est surtout elle qui va plus vite. Lui a besoin d'elle, mais c'est comment se perdre ensemble. C'est quand même pas la même chose que de se perdre tout seul et qu'il faut faire équipe, quoi. Il faut faire équipe. Moi, j'avais vraiment envie d'un... Bon, alors, c'est un peu naïf, mais je vous le dis quand même. J'avais quand même envie d'un spectacle où quand on sort du spectacle, soit on se dit « Ah, oh, putain, ça fait longtemps que j'ai été amoureux et c'est quand même chouette. » Enfin, qu'il y a quand même qu'on reconvoque dans ce spectacle la nécessité absolue de l'amour, que c'est quand même une belle chose, quoi. Il faut pas faire trop les fiers à bras. Enfin, il faut assumer une certaine vulnérabilité et c'est pas grave d'être vulnérable, c'est pas grave de pas savoir, c'est pas grave de se planter. La preuve, on recommence à chaque fois, donc c'est quand même qu'il y a quelque chose qui nous tient. Et puis j'avais envie aussi d'un spectacle qui répare un peu dans la parole. C'est un spectacle qui passe beaucoup par la parole. C'est des gens qui essaient de dire, qui essaient de nommer. Ça, c'est un truc que je défends aussi un peu. C'est plus on nomme, plus on peut avancer, quoi. Et c'est aussi un spectacle, j'espère, hein, ça c'est dans l'idéal, qui répare aussi, parce que à la fin, ils se sont perdus, ils se sont pris la tête, ils ont purgé quelque chose qui fait que la parole qui advient à la fin, et elle est surtout prise par l'homme, ça fait du bien, on avait envie d'entendre une parole d'homme qui répare un peu.
La naïveté et le bonheur, enfin, moi, je trouve que c'est assez lié. Finalement, vous évoquiez finalement des propos un peu naïfs, mais souvent, le bonheur se cache dans la naïveté quand même.
Complètement, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et pas dans les grandes choses, parce que c'est ça que j'aime bien aussi. C'est de voir comment, par exemple, la domination, ou c'est des grands mots, mais quand même, c'est quand même ça. Des fois, le rapport dans le couple, à l'intérieur du couple, il y a quand même un rapport dominant-dominé, parfois, même si on a des belles théories. Des fois dans le couple, à l'intérieur du couple, comment ça s'immisce à l'intérieur du couple, moi ça, c'est un truc qui m'intéresse vachement.
Et puis des rapports de force aussi qui peuvent s'y trouver sans forcément qu'il y ait un dominé, un dominant, ou que ça puisse tourner. Il y a aussi le rapport de force.
Tout à fait, ouais. C'est le rapport de force, exactement. Ouais.
Moi, je voulais juste ajouter une petite chose, juste pour titiller la curiosité des auditeurs et peut-être futurs spectateurs. C'est l'extrême proximité des interprètes avec le public et qui crée une complicité, une espèce de cocon comme ça, où on est tous convoqués dans leur aventure.
Exactement.
Et où on peut pas rester sur le bord du chemin comme un spectateur au moment du Tour de France. On est embarqué dans cette randonnée.
Ouais, on est embarqué dans cette randonnée. Et puis l'idée, c'était effectivement, comme vous le dites, c'était de se mettre tous ensemble à réfléchir ensemble à cette problématique, à ce que c'est que le rapport à l'autre. Et puis comme l'écriture de la neige, ça c'était un truc qu'on avait envie, c'est qu'il y a beaucoup d'adresses publiques. Et puis aussi pour titiller les spectateurs et spectatrices, c'est de se dire que c'est quand même une comédie grinçante. C'est-à-dire, je crois que ça rit beaucoup. L'idée, c'était pas d'en faire une héroïne et un héros. C'est-à-dire, c'est aussi des gens. On se disait toujours, il faudrait que ce soit des gens qu'on puisse rencontrer n'importe où. Ça pourrait être nos amis. Et qu'est-ce qu'on a en commun, en fait? Pas tant de faire la leçon sur on doit vivre comme ça, on doit penser comme ça, mais l'idée, c'était de se dire. On est perdu parfois. Et comment on se fait équipe pour s'en sortir, quoi.
Eh bien, merci. En tout cas, ça donne très
moi
envie.
Moi, donc, tant mieux.
Je rappelle que les représentations auront lieu au Cube et non pas au théâtre. Au Cube, donc, le mercredi 12 et le jeudi 13 mars à 20h.
Voilà, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Et je propose que nous repartions en musique avec un titre choisi par Vincent Connétable. Il aura l'occasion de nous le désannoncer juste après. C'est ça, le temps aussi que chacun sorte ses fiches. Je vois que c'est le bazar des fiches aujourd'hui. Tout le monde a des fiches, pas forcément à portée de la main. C'est pas bien grave, on écoute le morceau et nous revenons juste après. Et je ne ferai pas l'affront de désannoncer le morceau, Vincent Connétable,
tu aurais pu faire l'affront. Donc c'était Tramos Once Again, je crois. Groupe passé au Cube vendredi dernier, absolument exceptionnel.
Vous évoquiez qu'il y avait un album aussi qui était tout aussi exceptionnel, non ?
L'album est bien, mais surtout j'évoquais le groupe en première partie qui était Winter Family.
Ah oui.
Et dont
ah, oui.
L'album, pareil, était absolument ah, oui. fabuleux.
Très bien.
Donc voilà, je vous invite à aller creuser sur les internets pour voir à quoi ça ressemble, c'est vraiment chouette.
Eh bien, ça commence plutôt pas mal cet échange avec Vincent Connétable, qui est notre invité en plateau, qui actuellement expose, alors photographe avant tout, Vincent Connétable, qui expose actuellement à La Baraque. En quelques mots, La Baraque, Vincent, qu'est-ce ce lieu ?
Alors, en quelques mots, La Baraque, c'est un espace de vie sociale qui a été mis en place par la ville d'Évreux, et donc qui est chapeauté par la MJC. Et là, ils viennent de mettre en place, donc il y a un bar associatif, il y a un lieu d'expo, ils accueillent des gens tout lundi, mardi, mercredi, de 10h à 17h, voilà. Donc c'est en train de se mettre en place doucettement. Ils ont fait déjà, comment dire, une étude de marché, entre guillemets, pour savoir s'il y avait un besoin réel. Et il s'avère qu'au centre-ville, il n'y a pas que les quartiers périphériques qui ont besoin d'espace de vie sociale. Donc voilà, il est en chantier.
Peut-être que vous pouvez nous dire l'adresse, nous donner l'adresse.
Alors oui, 1 rue Saint-Thomas. c'est à l'angle de la rue Paul-Bert. Non, pas du tout.
Saint-Sauveur.
Saint-Sauveur, pardon. Ouais. Voilà.
Derrière la poste centrale.
Derrière la poste centrale, absolument.
Voilà. Voilà. Excusez-moi, je...
Et un endroit assez sympathique avec une courette très chouette.
Ouais, il faut noter l'ambiance déjà qui se dégage dans cette petite cour et dans ce lieu-là. C'est bien fait.
Moi, je voulais revenir sur cette notion. Alors, Vincent Connétable, on continue de vous présenter, mais pas forcément. On voit beaucoup de vos travaux régulièrement. Vous êtes également professeur sur la Maison des Arts. Quel est le lien, finalement, entre une expo photo de vos travaux artistiques et, finalement, un lieu social ? Comment vous y mettez le lien, vous, d'exposer en milieu d'accueil
Oui, ou associatif.
Je sais pas comment le dire en fait.
En gros, c'est un peu génétique.
C'est pas une galerie d'expo.
Non, voilà, non. C'est pas une galerie, mais c'est surtout une dominante sociale quand même dans ce lieu.
C'est un peu génétique et c'est pareil avec la Maison des Arts. J'interviens parfois sur des quartiers, enfin je suis sollicité, parce que pour moi ça a du sens, quoi. J'ai envie de dire d'aller amener un peu de photographie dans les collèges, dans les centres sociaux. Pour moi, c'est indispensable. Ça fait partie du sens un peu de l'affaire.
Et quel sens, du coup, vous y mettez ?
Le fait de partager mon savoir-faire et éventuellement créer des vocations et surtout montrer à des gamins, ou pas d'ailleurs, ou des adultes même, qu'ils ont des talents cachés qu'ils ignorent. Et ça, c'est un peu mon fond de commerce, on va dire. Pour être un peu vulgaire en disant commerce.
Oui, moi j'avoue, ce que je voulais te demander, c'est donc montrer à des enfants qu'ils ont des talents cachés et qui peuvent aussi réaliser des photos. Est-ce qu'ils ont besoin de moyens particuliers ou est-ce que ça se fait avec leur téléphone ? Puisque maintenant tout le monde a un téléphone avec un appareil photo, ou est-ce qu'il faut se doter de moyens techniques plus précis, plus pointus ?
Non, justement. Alors, le téléphone portable a plein de désagréments, mais il a cette vertu, c'est qu'il est accessible à tout le monde et tout le monde en a un. Et ce qui fait que, je sais pas si vous avez vu le projet XXL sur lequel on avait travaillé, où il y a une bâche énorme à la Madeleine, ça a été fait avec un smartphone qui date du siècle dernier presque. Enfin, j'exagère, mais... Et donc, ce qui est chouette, c'est que ça donne l'accessibilité à la photographie de façon un peu, chiader avec des petits moyens. Et on peut aussi faire de la photo sans appareil photo. Il y a plein de trucs à faire.
Dans le sens que vous voulez apporter la découverte sur l'art de la photographie pour ces personnes, ça passe pas seulement uniquement je mets mon expo en tant que photographe, c'est une rencontre en fait, c'est aussi créer ces liens de rencontre avec ces publics, ces personnes, ça passe sous forme d'atelier, ça, voilà. C'est un parcours, c'est une rencontre forcément. Donc,
oui,
à chaque fois que vous avez une expo, il y a une rencontre avec les publics.
Alors là, c'est pas encore programmé parce que je vous dis, c'est un peu balbutiant comme projet, mais souvent, c'est comme ça que ça se passe. Oui. Souvent, un atelier. Ou alors, ce qui est aussi très chouette, moi j'aime bien, c'est quand j'interviens sur un collège ou sur un centre social, c'est qu'il y a une restitution. Et c'est-à-dire qu'à la fin, on est une expo, et une expo pro. C'est-à-dire, c'est pas des 10-15 collés sur du papier de couleur, mais un truc un peu, comment dire, un peu qualitatif, et qui fait que, bah, il y a une sorte de fierté derrière d'avoir réalisé ça. Ça avait été le cas à Politzer, d'ailleurs.
Moi, je voulais revenir sur une notion, c'est d'échanger autour de la photo, autour de l'œuvre, autour de la réalisation. Quelle importance vous y mettez d'échanger autour d'une proposition de photo, une proposition artistique, en fait. Est-ce que c'est important ou pas d'échanger? Il y a plusieurs écoles, certains disent, bon, ben, on prend ce qu'on prend et puis on comprend ce qu'on a envie d'y comprendre. Est-ce qu'il y a besoin de est-ce que vous y mettez de l'importance, et quelle importance vous y mettez à cet échange autour de l'art?
Pas trop dans le discours, moi je suis plutôt dans la sensation que dans le discours, mais c'est peut-être mon côté animal qui prime. Je sais qu'il y a des gens qui intellectualisent pas mal de choses, qui écrivent. Moi,
même,
j'écris
mais
pas.
Mais même pour ressentir, des fois, faut avoir, j'ai envie de dire,
oui, presque, quelques clés.
Été préparé ou avoir des
clés.
Oui,
oui, j'entends bien, mais je suis assez partagé là-dessus, parce qu'il y a des moments où effectivement c'est justifié, il y a des moments où, enfin, je trouve que des gens écrivent beaucoup, et souvent c'est pour cacher le fait que leur boulot est un peu faiblard, quoi. Enfin, c'est toujours un peu tendancieux, cette affaire. J'ai aucune théorie là-dessus. Hein. Il y a des moments où il y a des explications qui rendent la chose évidente, et d'autres fois, je trouve ça un peu...
Surtout quand on s'adresse peut-être à des publics qui ne sont pas habitués à fréquenter des expos ou des œuvres artistiques, tout simplement. Ça se prépare, ça, d'être réceptif.
Alors moi, ce que je passe mon temps à dire, que ce soit à tous les gens que je croise, qui à chaque fois me disent, moi, je peux pas avoir d'avis, j'y connais rien. Ce qui est une aberration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose fait vibrer, peu importe qu'on ait eu l'explication ou qu'on soit licencié en art, peu importe, quoi. La sensation ou ce que ça renvoie, ça, c'est tout à fait personnel. Et c'est comme les gens qui parlent de vin. Il y a des œnologues qui sont là en train de raconter que oui, le vin, oh, bah, celui-là, il a du slip, machin. Alors que d'autres disent, dites ce que ça vous évoque, et il n'y a rien de débile, quoi. C'est-à-dire que tout ce que vous allez dire est pertinent.
Oui, c'est plutôt travailler aussi son rapport à la curiosité, à l'observation, et aussi à se permettre ces expressions de ressenti du public par rapport à toute proposition artistique, et même, je dirais, même autre. C'est plutôt aussi quand on dit, oui, mais on n'est pas, on ne sait pas, nous, on ne connaît pas, mais c'est peut-être un travail juste de déplacement, mais pas besoin de connaître, juste déjà travailler sur la personne, sur l'acceptation de ses sensations, de son émotion, ouais, de ce que ça, et du ressenti, et d'être en capacité de se dire, bah, ce temps-là, ce moment-là, on permet justement cette expression-là pour les personnes.
Tout à fait, et il n'y a pas de mauvais avis.
Et il n'y a pas de mauvais, voilà.
Est-ce que ce ne serait pas un travail aussi de prise de conscience de la singularité du regard de chacun? Puisque face à un même objet, on ne voit pas tous la même chose.
Un truc que j'explique toujours quand je donne des formations, enfin je fais des cours, c'est de dire qu'à partir du moment où la photo a... Enfin, il y a une réaction à une photo, qu'elle soit négative ou positive, le contrat est rempli. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive... Moi, c'est pour ça que je me moque pas mal des couchers de soleil, mais c'est, je trouve ça... Le coucher de soleil, déjà, on n'arrive jamais à saisir la beauté du truc. Et surtout que c'est un peu tarte à la crème. Mais une image qui dérange ou une image qu'on trouve fabuleuse, là, il s'est passé un truc et c'est gagné, quoi. Après, une image où on passe, on fait voilà, tant pis, il s'est rien passé, c'est pas très grave non plus.
Oui, puis si ça se passe pas chez quelqu'un, ça se passera peut-être chez quelqu'un
exactement,
d'autre.
Exactement, voilà.
C'est très subjectif.
Mais ce qui est très intéressant, surtout, c'est d'avoir des réactions des gens qui disent, bah tiens, moi, cette photo-là me cause, et à l'inverse, ça va être une photo complètement opposée, et qui dit, bah moi, celle-là, j'aime pas, mais c'est vraiment chacun y va selon sa sensibilité, quoi.
Sur la baraque, donc on peut voir l'expo de Vincent Connectable actuellement.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on peut y voir et combien de temps va durer cette expo?
Alors il y a deux de mes boulots. Il y en a un qui est plus sur le sable, quelque chose qui a été fait en Bretagne, dans le Finistère.
Jour de coucher de soleil.
Région, voilà, c'est ça. Cher à mon cœur. Et de l'autre côté, on est plus sur des choses d'ordre végétal. Alors ce qui est assez marrant, c'est que c'est pas forcément évident. Et à chaque fois, moi, que la mission est remplie, c'est quand on vient de me demander ce que c'est. Donc comme ça, déjà, là, j'ai gagné. C'est-à-dire que les gens se demandent ce que c'est et qu'ils se sont interrogés sur un truc.
Sur votre travail photo, aujourd'hui, il y a plusieurs façons, enfin, il n'y a pas aujourd'hui d'ailleurs, il y a toujours eu plusieurs façons de travailler la photo, notamment à travers les retraitements numériques ou le travail numérique, en fait, tout simplement. Vous travaillez comment ?
Alors, moi, plus ça va et plus je reviens aux origines. C'est-à-dire qu'au départ de la photo numérique, j'essayais de tout chiader, que tout soit nickel. Et en gros, on perdait le côté lumière, finalement, et le côté naturel. Et plus ça va, je me rends compte, plus je prends l'image brute. Alors, évidemment, je la pimpe un peu, mais par rapport à ce que ça a été, c'est plus du tout le cas. Et surtout, c'est au niveau des tirages, où j'essaie vraiment de tendre vers ce qui se faisait en argentique, pour le coup, en termes de qualité de papier et d'impression.
Vous faites les tirages, vous ?
Alors non, je vais faire un petit peu de publicité pour la personne qui me fait les tirages, c'est Jean-Philippe Biot, Caméléono, et court à côté de Passy, et ce garçon travaille super bien, donc si vous avez des tirages photos à faire, n'hésitez pas à le contacter.
On vient de votre part.
Mais venez de ma part, carrément. C'est un copain, il bosse très très bien.
Parce que c'est aussi parce que tout le travail artistique de prise de vue, de lumière, de tout ça peut être fait en amont. Le tirage est ultra important en fait. Et ouais, c'est finalement la partie que vous maîtrisez pas vous directement.
Et ça c'est très frustrant parce que pour l'avoir fait en argentique au siècle dernier, ça c'est très frustrant. Et puis en plus c'est des coûts qui sont absolument ahurissants. Enfin un traceur ou les encres et les papiers ça coûte très cher. Donc là ça je suis obligé de sous-traiter. C'est une espèce de petite frustration quand même.
Ça donne pas envie de repasser à l'argentique, noir et blanc et tout ça, ça.
Alors ça pourrait, mais c'est très compliqué. Et puis je dois reconnaître que c'est un peu une histoire de manque de temps. Il faudrait vraiment s'y remettre sérieusement, avoir un laboratoire, parce qu'il y en a un à la Maison des Arts, mais qui est un peu vétuste aussi, qui date du siècle dernier. Donc voilà, ou alors il faudrait que j'équipe ma cave, mais bon, c'est encore une autre histoire.
Parce que c'est vraiment toucher du doigt là, cette espèce de perte de contrôle en fait du tirage pour le photographe, là où finalement il y a que dans le, enfin quand on édite finalement qu'on perd le contrôle quoi. Enfin,
oui, perd le contrôle. Mais alors il y a plein de phases, c'est-à-dire que la photo ça a toujours l'air facile, on a l'impression que quand on a appuyé sur le bouton la photo est faite, mais non pas du tout, il y a la post-production et c'était le cas même en argentique, hein, le fait de faire un tirage qui était beau, c'était il y avait un boulot réel. Moi, j'ai défendu le métier de tireur photo qui était le mien, parce qu'au départ, les gens disaient oui, la photo est belle parce que le photographe est bon, mais il y a des photographes qui étaient absolument incapables de faire un tirage de leurs images. Quoi.
Donc ça, c'est, on l'évoquait, le travail autour du sable, le travail autour des végétaux, c'est ce qu'on va trouver
voilà,
à la baraque. On n'a pas donné les dates, jusqu'à quand ?
C'est jusqu'au 4 avril.
Jusqu'au
donc
4
c'est
avril.
Les lundis, mardis, mercredis de 10 à 17 heures. Et c'est aussi ouvert quand il se passe des choses à la baraque. Et entre autres, je crois que ce soir, il y a les... Comme j'ai dit tout à l'heure, les maracassins, je crois que c'est du théâtre. Et donc, oui, alors pour aller à l'espace de vie sociale, il faut avoir son adhésion à la MJC, donc qui est de 5 euros, je crois. Mais tout ce qui est annexe est accessible sans être adhérent. C'est-à-dire que l'expo ou le spectacle de ce soir, c'est ouvert à tout le monde.
Il suffit de pousser la porte.
Il suffit de pousser la porte.
Et avec un peu de chance, elle est déjà ouverte.
Voilà. Alors souvent, elle est déjà ouverte. Et en plus, l'équipe est vraiment super, super accueillante. Ils sont très sympas.
Très bien. Eh bien, nous en prenons bonne note. jusqu'au 4 avril, allez voir l'exposition de Vincent Connétable. Est-ce qu'elle a un nom, cette exposition, parfois ?
Alors, elle n'a pas de nom, justement. On en revient toujours à ça. J'ai aucune imagination là-dessus. Et donc, mes images n'ont jamais de titre. Mes expos n'ont pas de nom. Et voilà. Et donc, finalement, on va dire que c'est une démarche intellectuelle, alors que pas du tout, c'est un manque d'imagination totale.
Très bien. Bah, on dirait que c'est la démarche.
Exactement, voilà, c'est l'expo sans titre. Quoi.
Voilà, l'expo sans titre.
Le classique.
C'est ça, de Vincent Connétable qu'on retrouve à la baraque, 1 rue Saint-Thomas, c'est derrière la poste centrale, enfin la grande poste du centre-ville. Et puis il suffit de pousser la porte, et des fois même, elle est déjà ouverte. Lundi, mardi, mercredi.
10h-17h.
Et des événements spécifiques comme ce soir, par exemple.
Absolument.
Avec les maracassins.
Bien joué.
Voilà, du théâtre. Alors, mais c'est tout un exercice, hein, quand même, pour se souvenir de tout.
J'entends.
On va glisser gentiment vers la pause musicale que Caro nous a choisie et nous en écouterons un extrait avant de retrouver la boucle à nos micros.
Tout à fait. Tu veux que je l'annonce?
Ouais, hein, comme ça on passe directement à la boucle okay. dans la sortie.
Eh bien, c'est un morceau de Beth Hart qui s'appelle Caught Out in the Rain. Et vous allez voir, c'est superbe.
Art, c'était le choix de Caro. Merci pour ce choix, Caro. C'était très bien.
De rien.
Voilà, on est courte un petit peu. C'est sans doute des morceaux rallonges qui nous permettent de nous baigner dans un univers, mais on va y sortir de cet univers, car nous recevons à nos micros Olivier, dit La Boucle, artiste plasticien issu du milieu du graffiti initialement quand même, qui expose actuellement au comptoir des loisirs, et ce jusqu'au 28 mars, avec une exposition en attendant dans le printemps. Bonjour Olivier, comment allez-vous?
Yo, salut Principe Actif, ça va?
Ben, ça va très bien, merci. C'est toujours un plaisir de vous avoir à nos micros. C'est largement pas la première fois, bien entendu, mais c'est toujours un plaisir de vous avoir. Vous exposez actuellement sur le comptoir des loisirs, sur cette exposition justement, en attendant le printemps. Est-ce qu'il était nécessaire pour vous d'attendre le printemps avec quelque chose? Et puis, est-ce que cette exposition nous permet pleinement d'attendre le printemps justement?
Alors, je vais répondre à tout ce que tu me demandes.
Ça, ça fait beaucoup, c'était une grande liste.
Ouais, non, t'inquiète. Moi, j'attendais pas le printemps, en fait. Tu vois, c'est toute l'année, c'est vrai que je traite la couleur. Donc, toute l'année, c'est un peu le printemps dans mon atelier ou sur les murs à l'extérieur. Mais je pense que, par contre, les gens étaient en attente parce que c'est vrai que... On a vécu là les un an et demi qui était compliqué niveau météo, climat, le climat aussi social. Donc là en fait moi je profitais, en fait j'avais le prétexte d'avoir réalisé un mur dans la rotonde de l'office du tourisme, du comptoir des loisirs, au mois de novembre. Et en fait ça me permettait, en fait, cette réalisation de mur me permettait, en fait, de déclencher une exposition et avoir un prétexte pour qu'on se réunisse, en fait, en sortie d'hiver.
Donc, voilà, vous êtes un spécialiste des prétextes, j'ai l'impression. Ouais. Chaque prétexte, enfin, chaque opportunité est un prétexte à peindre, à exposer, à partager finalement de la couleur.
Exactement. En fait, c'est ce que je voulais. Moi, la couleur, c'est vrai que je la pratique à l'année égoïstement dans mon atelier, mais à un moment, j'aime bien aussi diffuser tout ça auprès du grand public et que eux s'approprient par rapport à leur vécu, par rapport à leur histoire personnelle ou quoi, s'approprient l'exposition. Et si je peux avoir la petite prétention de les extraire pendant un quart d'heure, 20 minutes de leur quotidien ou même pendant une heure, les faire un petit peu voyager, penser à autre chose et... Eh ben, c'est jackpot, quoi. En fait, c'est le but, quoi. C'est le but.
Je le disais en vous présentant, plasticien issu du milieu du graffiti, c'est un des éléments quand même qui porte votre travail, c'est-à-dire d'attaquer des grands formats. On se rappelle notamment du bâtiment des Abeilles, qui était un très grand format sur la hauteur, de la place à Navarre, Pouget, sur lequel il y a une grande œuvre également, mais aussi travailler sur des formats plus petits, des formats type toile. C'est le même travail que vous apportez. Seule la surface change ou ça s'aborde autrement?
Alors, en fait, plasticien, non, je ne suis pas forcément plasticien, c'est vrai que je pense que c'est vraiment sur un esprit de d'aplat, quoi, c'est plus que sur du volume, mais en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que voilà, j'aimais pratiquer en extérieur sur des grands formats qui sont vraiment basés sur la gestuelle du corps, le mouvement. Mais à côté de ça, je peux pas pratiquer non plus dans Normandie toute l'année, tout le temps à mes souhaits dehors. Donc c'est vrai que j'avais aussi développé en parallèle cette pratique en atelier sur toile, un peu plus conventionnelle. Mais en fait, ce que je suis en train de me rendre compte au fur et à mesure des années, c'est que bah, mon travail d'atelier déborde sur les murs extérieurs. Alors par contre, mon travail extérieur ne déborde pas en atelier, mais l'inverse, quoi. Donc en fait, je commence à utiliser... un peu plus d'acrylique qui se mélange avec de l'aérosol, mais je m'émancipe quand même des codes du graffiti. Le graffiti, c'était quelque chose, mais là maintenant c'est j'utilise l'outil de l'aérosol, mais je suis vraiment parti sur autre chose, quoi, plus basé sur des émotions, quoi, parce qu'en fait tout mon travail en fait est en freestyle, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de maquette de réaliser. Tout est en improvisation, en fait. Donc, c'est vraiment les émotions qui parlent, quoi. Les émotions, le ressenti du moment, quoi, face au mur ou face à la toile.
Et puis, c'est aussi, à travers vos grands formats, une proposition qui est faite dans l'espace public. Et ça, c'est aussi important, cette notion de le proposer en espace public, votre travail.
Alors, après, ça, c'est ma politique. C'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on met quand même beaucoup de béton. Bon, bah, les villes sont faites de béton. On met beaucoup de béton. Mais c'est tout le temps du béton gris, triste. Donc, bah, nous, les artistes, fêtons un peu toute la couleur, si on peut la proposer au grand public, et que le grand public est prêt à recevoir ça visuellement, autre que des panneaux publicitaires ou autres qu'on leur impose, bah, moi, en tout cas, avec grand plaisir, quoi, avec grand plaisir. Et puis, étant aussi, parce que je tenais à le dire, étant originaire, d'Évreux, hein, étant hébroïtien de souche, pour moi c'est aussi un honneur, tant d'années après de travail, de pouvoir partager avec les habitants de la municipalité ou même du département maintenant, hein, carrément. Donc voilà, c'est vraiment un honneur pour moi. Je suis ravi de que voilà qu'on m'accueille un petit peu plus dans des lieux où, où je peux m'exprimer pleinement et ouvrir tout ça au grand public qui n'est peut-être pas forcément éduqué à sortir dans des musées, dans des choses comme ça, dans des expositions. Donc là, voilà, le fait de pouvoir leur oui. offrir ça dans la rue,
mais et justement, c'est vraiment là... top. Ouais, je rebondis aussi parce que là, c'est sur l'exposition au comptoir des loisirs, là vraiment dans un lieu particulier, bon, qui est un lieu où il faut quand même pousser la porte, où vous avez quand même la deux dimensions. Vous avez une grande fresque parce qu'il y a eu vraiment un mur de la rotonde qui a été peint, graffé par vous, mais qui est une œuvre permanente. Je sais plus si c'est une œuvre permanente du coup qui est qui va rester sur le comptoir ou voilà, est-ce que vous marquez profondément le comptoir dans son esthétique et dans du coup aussi de la proposition au public. Et je voulais savoir comment s'était fait cette rencontre avec le comptoir des loisirs que de performer, puis voilà, ça vient d'où? C'est quand même assez insolite qu'un office de tourisme dise ben voilà, vous allez me faire un mur à l'intérieur d'un office de tourisme. C'est un autre espace.
Ben non, mais en fait c'est toujours pareil. C'est parce que à l'époque j'avais fait les usines de Navarre pour le tiers lieu qui avait été ouvert durant 4 mois par le collectif des abeilles. Donc encore toujours des niches comme ça locales qui se bougent. Et en fait, bah du coup, ça m'a permis d'avoir une grande visibilité, d'avoir pu être vu par certains responsables de l'office du tourisme. Et du coup, je pense à Marion Ossin, oui. En fait, voilà, clairement. Et en fait, bah après, ils sont venus vers moi pour avoir cette proposition, parce que je pense qu'eux aussi ont envie de faire bouger l'office du tourisme et de dépoussiérer un petit peu la chose institutionnelle et tout ça réalisé avec des gens de la région, quoi, et pas forcément extérieurs. Au bassin, donc voilà, donc oui, ça a été cohérent. Une belle rencontre, et ouais, il y avait vraiment une cohérence, et du coup, moi, quand on me propose ça, bah forcément, pour moi, c'est un honneur. L'office du tourisme, c'est aussi quand même là où, quand on regarde bien, tous les voyageurs, tous les touristes passent pour venir chercher de la documentation, pour aussi voir et apprendre un petit peu de tout ce qui se passe dans la région. Donc d'avoir cette visibilité-là, c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment top. Mmh. Et en plus, derrière, qu'on me propose de faire une exposition éphémère et rentrer dans leur programme d'expo de l'année, bon, moi, je dis oui, hein, forcément, hein. Toutes ces initiatives-là sont vraiment top. Hein. Et en plus, moi, ce qui était super intéressant, en plus, je vais dire égoïstement, c'est que je présentais et mon travail sur un même lieu, et mon travail à l'aérosol, et mon travail sur toile. Quoi. Donc, je présentais vraiment l'ensemble.
Moi, j'avais une question à vous poser par rapport à votre travail sur les murs et en extérieur. Comment vous choisissez les lieux où vous allez graffer? Est-ce qu'on vient vous chercher? Vous parliez tout à l'heure d'un travail sur Évreux, mais aussi au niveau du département. Comment ça se passe?
Ça se passe bien. Non, mais qu'est-ce que je vais vous dire? C'est pareil, je vous dis, il y a des
vous repérez lieux... Vous repérez des lieux et vous vous dites, tiens, là, je vais faire quelque chose, et vous y allez à la sauvage, ou...
Il y a des lieux comme ça, oui, tels que des friches industrielles, oui, bien sûr. Et puis, il y a d'autres... Après, il y a aussi les institutions qui commencent à se bouger aussi. Alors nous, en France, on est en retard. Il y a quelques grandes villes qui s'y mettent avec des festivals, des initiatives de certaines moyennes villes. Mais voilà. Après, c'est pareil. Je suis pas... C'est ce que je dis aussi. Je suis pas un arriviste. Ça fait 35 ans que je fais de la peinture. Vous voyez, c'est seulement maintenant qu'on commence à faire des murs, quoi. Vous voyez, ils commencent à être visibles auprès du public. Mais moi, ça fait 35 ans que je peins. Donc... ça s'est pas fait en un jour, si vous voulez. Et en fait, c'est aussi à force de travail, à force d'être vu, d'être présent dans les événements. Et puis, au fur et à mesure, il y a des gens qui passent le cap et se dire, on va faire un projet avec tel ou tel artiste, quoi. Parce qu'il y a moi, mais il y a aussi plein d'autres artistes, en fait.
Ok. Moi, j'ai juste une dernière question avant de clore, parce que on est très, très en retard. La question, c'est... est-ce que la nature de votre travail change quand c'est une commande ou quand vous repérez un endroit où vous vous dites là il faut absolument que j'aille graffer à cet endroit-là, et est-ce que la liberté est la même?
Alors moi, je c'est une des libertés que je veux absolument garder. Je veux être libre, libre de création. C'est-à-dire qu'en fait, durant des années, j'ai travaillé pour développer un univers qui m'est propre. Et en fait, je veux faire que ce que j'aime. Je suis pas là pour recopier des choses, enfin, qui sont déjà propriétés de d'autres artistes. Moi, je veux vraiment, enfin, par rapport à ma démarche, je veux vraiment réaliser pleinement ce que j'ai envie. Et en fait, les gens, généralement, c'est soit ils adhèrent à mon travail, ou soit ils adhèrent pas. En fait, souvent, c'est assez tranché, quoi. Mais par contre, pour répondre vite fait, là, vu qu'on est en retard, à votre question, forcément, je suis obligé de me plier des fois, par exemple, à des codes couleurs, des choses comme ça. Mais quand j'arrive dans des lieux abandonnés, je fais ce que je veux. Enfin, vous voyez, il n'y a personne qui m'impose quelque chose ou pas, quoi. Mais après, c'est sûr que quand on travaille avec des institutions, il y a des fois des couleurs ou des formes ou des thèmes à respecter. Mais généralement, quand on vient vers moi, c'est vraiment par rapport à la démarche que j'ai déjà pu montrer un petit peu partout, quoi. Vous voyez.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier, la boucle, d'être passé par nos micros. C'est un vrai plaisir à chaque fois, Olivier, quand même.
Ouais, non, franchement, merci pour l'invitation. Merci pour ce que vous faites pour tous les artistes locaux et ce que vous représentez. Donc voilà, merci à vous. Et je suis fidèle et vous êtes fidèle, vous êtes au top et changez rien. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci, la boucle. Je rappelle l'exposition En attendant le printemps, visible jusqu'au 28 mars au comptoir des loisirs. Et puis, vous l'aurez compris, poussez la porte, allez-y, découvrez.
C'est gratuit, allez-y, venez.
Mais voilà.
Ça mange pas de pain.
Mais c'est ça, exactement. Venez découvrir ou juste vous refaire plaisir à travers les travaux de la boucle. Merci à vous.
Merci, Principe Actif. À bientôt.
À bientôt. Nous, on poursuit très rapidement avec l'agenda non exhaustif. Il y avait peut-être une date ou deux à rappeler quand même, Caro.
Non, là,
non, c'est bon, on est vraiment en retard. On passe direct à la suite.
Il y a le spectacle ce soir encore, du spectacle qu'on a parlé le mois dernier, qui est Personne n'est ensemble sauf moi.
Voilà, qui joue encore ce soir à 20h au Théâtre Legendre.
Voilà, petit rappel.
Et qui est absolument exceptionnel.
Ouais.
Parfait, nous arrivons tout de suite à la dernière finale. Nathalie, nous as choisi un extrait de film pour conclure cette émission qui s'appelle...
L'attachement de Karine Tardieu qui passe actuellement dans les salles. Enfin, on est sur l'actualité. L'attachement, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui se passe quand un petit garçon se prend d'attachement avec une femme célibataire qui est sa voisine, dont elle n'a rien demandé, sauf que d'être là et à un moment d'une situation familiale un peu complexe. Et comment cette rencontre entre ce petit garçon de 4 ans qui vient de perdre sa maman et sa voisine se fait. Et c'est une subtilité des rapports humains et de ce qu'est l'amour, l'attachement, le soutien. C'est une construction fine sur ces relations humaines. Et voilà. Je vous le conseille, un très très beau moment sensible, mais aussi humain, drôle dans la vie.
Eh bien, on se quitte là-dessus et on se donne rendez-vous pour le Scène de Vie Vide Scène du mois d'avril.
Ouais.
Bah voilà.
Quelle date, 7 ou 5 avril.
Vous trouverez premier vendredi du mois à midi et demi.
Excuse-moi, j'ai perdu les os. Comme tu m'avais dit que pour une heure ou deux, moi j'ai dit ça.
On fait la course ?
J'ai pas envie de faire la course, vas-y, toi.
Tu connais rien au petit garçon, t'as pas d'enfant.
Je vais me préparer.
Qu'est-ce que je fais, moi ?
Je sais pas. Tu veux faire un dessin ? Ça veut dire quoi, ça ? Oui ou non ?
Il faut que je te dise quelque chose de très triste au sujet de maman.
Elle est morte.
Ouais. Et me perdoe. Se eu insisto neste tema, mas não sei fazer.
Est-ce qu'Alex l'aimera plus que moi?
Un père a de la place pour tous ses enfants.
Sauf que je suis pas son enfant.
C'est gagné le bien de la vie.
Merci.
C'est gagné le bien
de la vie. Et de retour.
C'est pas le même rôle.
beaucoup trop tôt. Je piétine le passé.
Ta mission, c'est d'être heureux.
Ma vie, c'est un fagot de merde.
Il y a de la merde, d'accord. Il y a aussi une petite fille magnifique. Il y a ton lien avec Elliot. Et puis, il y a Emilia. Il y a même l'ex de ta femme qui ressemble à personne. Il n'y a que de l'amour dans ta vie, Alex.